Bonjour, pour ces 5 années de programmation au sein de Radio Grenouille, le réseau Écoforum est heureux de vous proposer, jusqu'à la fin 2009, une sélection de ses émissions coup de cœur. Pour cet anniversaire, nous tenions à remercier tous les militants, les associations, chercheurs, institutions, ainsi que les élus et les entreprises qui, en participant aux échanges de regards sur l'environnement, lui ont ainsi donné vie. On se retrouve donc en janvier pour la nouvelle émission d'Écoforum, et en attendant, bonne écoute à tous. Bonsoir et bienvenue à l'émission Regard sur l'environnement du réseau Écoforum. Écoforum est un réseau associatif pour l'environnement, la santé, la solidarité et pour un meilleur cadre de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale des zones humides qui va avoir lieu le 2 février prochain. Donc c'est demain, enfin, ça commence demain, ça dure quelques jours. Donc j'ai pour parler de ce sujet plusieurs invités. Donc plusieurs invités qui représentent des structures différentes. Donc la première de ces structures, c'est la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Donc nous avons Cynthia Chietkat qui est responsable du groupe Marseille et Erika Taube qui est membre actif de la LPO qui participe donc à la mise en place de cet événement sur Marseille et la région. Donc bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Elles répondent en cœur, en plus c'est merveilleux. Donc vous allez pouvoir nous présenter tout à l'heure donc, les actions qui sont menées par la LPO dans le cadre de cet événement et puis, puis nous présenter aussi la LPO de façon plus générale. Alors nous avons aussi quelqu'un de la station biologique de la Tour du Valat qui est là, donc responsable du pôle lagune, enfin le coordinateur pardon, du pôle lagune méditerranéenne. Donc Marc Barral, vous êtes biologiste spécialisé en milieu aquatique. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'est la Tour du Valat. Donc vous venez de Camargue, enfin d'Arles, oui. Pour nous parler de tout ça. Merci de vous être déplacé pour vous joindre à nous. Et on va pouvoir donc faire le point avec vous sur les activités de la Tour du Valat et puis notamment ce que vous faites dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Donc et puis notre dernière invitée, la dernière non pas par l'importance mais dans l'ordre de présentation. Donc c'est Catherine Aubert qui représente le syndicat intercommunal Cibojaï. Donc vous êtes chargée de mission scientifique de l'étang Bolmont et du Jaï. C'est bien ça?
C'est ça.
Et vous êtes aussi spécialiste en gestion des milieux aquatiques.
C'est ça, bonsoir.
Donc, bonsoir. Donc, votre syndicat intercommunal, donc Cibojaï, prépare donc aussi des actions dans le cadre de cet événement. Vous allez pouvoir aussi nous présenter d'une part Cibojaï et puis les actions que vous allez mener dans le courant du week-end, il me semble.
Voilà, c'est ça, dimanche matin.
Voilà, dimanche matin. Une sortie en bateau.
Oui.
Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la Journée mondiale des zones humides, c'est tous les ans, début février, le 2 février. Donc, les zones humides, qu'est-ce que c'est? Alors, les zones humides, ça peut être les étangs, les lagunes, les marais salants, les mares, les marais, les ruisseaux, les tourbières, les vallées alluviales, les prairies inondables. Enfin, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous cet intitulé. Donc, désormais, elles ont leur journée mondiale. Donc, comme je vous le disais, c'est le 2 février, c'est demain, c'est le jour de l'anniversaire de la Convention, qui est connue sous la Convention de Ramsar. Donc, c'est une ville iranienne et ça existe depuis 1971, donc quelques années déjà. Donc cette année, il y aura plus d'une soixantaine d'animations qui seront gratuites et ouvertes au public en PACA et en Languedoc-Roussillon. Donc ça fait beaucoup d'événements à suivre. Donc on parlera surtout cette année, puisqu'elles sont à l'honneur des lagunes méditerranéennes. Et puis on passera aux gravières du fleuve Hérault, en passant par les bords de la Durance, l'embouchure du Var, les salins du Midi, et puis les différents étangs régionaux aussi. Donc ça donnera la possibilité, donc à chacun, de pouvoir se rendre compte de la diversité, de la richesse et puis de la beauté aussi de tous ces milieux naturels divers et variés, donc, et remarquables même. Alors, ces milieux-là, ces zones humides, elles ont été malmenées ces dernières décennies, puisque ces 30 dernières années, on en a détruit quasiment plus de la moitié. Puis alors, en France, on n'a pas forcément été un très bon élève pour ça. Donc c'est pour ça aussi que cette journée mondiale prend toute son importance, parce qu'elle est là aussi pour parler de ça et préserver ces zones. Alors aujourd'hui, il y a un réel engouement autour de cette thématique, une prise de conscience nationale et locale aussi. Les indicateurs semblent aller à l'optimisme, mais il faut continuer, parce qu'on n'a pas fini. Bien sûr, comme on le sait, dans l'environnement, on commence des combats et des guerres qui ne s'arrêtent jamais, bien au contraire. Donc on espère que les différents acteurs de nos territoires vont continuer à prendre ces zones humides en compte, parce qu'elles interfèrent dans beaucoup de domaines, par exemple les risques naturels, on le verra, elles jouent un rôle important dans les inondations. Peut-être on essaiera de faire le lien entre les éventuelles négligences qu'on a pu avoir au niveau des zones humides et les catastrophes en termes de gestion des risques qu'on a pu aussi avoir dans notre région. Et puis elles interfèrent aussi dans les aléas climatiques, la sécheresse, puisque ce sont des véritables réservoirs en eau douce. Et on verra aussi, au niveau des questions de biodiversité, quels sont leurs rôles, et on verra qu'il est prépondérant. Voilà pour cette introduction. J'espère pas trop longue, on va commencer tout de suite. Donc, par présenter cette journée mondiale des zones humides. Donc, est-ce que l'un de vous se sent les épaules de présenter un petit peu l'historique de Ramsar ? Alors, il se passe, je crois que Marc a été désigné d'office. Voilà.
Oui, c'est gentil.
Honneur aux hommes, pour une fois.
Donc, pour revenir sur la convention de Ramsar, c'est la première convention internationale qui a comme objet un milieu naturel. Donc, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est une prise de conscience qui date quand même ça a commencé en 1962, où les scientifiques, et surtout les naturalistes, se sont aperçus qu'il y avait un gros problème au niveau des zones humides. Et ça avait un impact dramatique, notamment sur les populations d'oiseaux. Donc je pense que la LPO nous en parlera tout à l'heure. Mmh. Donc ça a été la première prise de conscience. Et puis, au fur et à mesure, les scientifiques ont essayé de mobiliser un petit peu tous les États, parce qu'on sait très bien que les naturalistes tout seuls ne peuvent rien faire. Il faut intégrer le politique dans cette dimension-là. Et progressivement, donc ça a mis quand même du temps, on est arrivé à cette convention qui a été signée par de très très nombreux pays. Et donc, c'est ce qui s'appelle la convention de Ramsar.
Alors, très nombreux pays, c'est 144, je crois.
Oui, environ 150.
Donc,
ouais.
Donc ça fait du monde. Et ça fait aussi beaucoup de projets, puisqu'on a 1400 zones qui ont été décrétées zones humides de référence Ramsar, c'est ça, sur l'ensemble de la planète.
Voilà, c'est ça. Et en France, juste pour préciser, on a 25 zones humides d'importance internationale, dont la Camargue, qui a été, je crois, la première zone humide à être citée au niveau international.
Alors, ce qui est intéressant aussi, vous avez dit que c'était donc un des premiers traités internationaux qui avait été fait sur la protection de l'environnement, parce qu'on sait que ces traités-là sont assez récents. Mais c'est aussi, selon donc, les documents que vous m'avez envoyés, le seul traité de portée mondiale qui est consacré à un écosystème en particulier. Donc c'est quand même un traité très spécifique, puisque, bon, on l'a vu, ça regroupe quand même beaucoup de types d'environnement, tout ça, puisqu'on parle des lacs, mais aussi des marais, tout ça. Bon, c'est formidable.
Oui, on peut dire que c'est vrai que c'est formidable. Maintenant, on parle beaucoup de conventions sur la biodiversité, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus générales, beaucoup plus globales. Là, c'était très spécifique sur un milieu. Bon, on en discutera tout à l'heure, on verra que c'est pas parce qu'il y a eu quand même ça en 1971 que tout a été rose d'un seul coup pour les zones humides. Hein, elles ont continué à être dégradées pendant pas mal d'années. Donc bon, c'est une bonne chose, mais ça fait pas tout d'avoir ce type de convention.
Bien sûr. Alors Marc, puisque vous avez la parole, on va commencer par les présentations avec vous. Donc vous travaillez à la station biologique de la Tour du Valin. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Tour du Valin et des actions que vous y menez ?
Donc, bon, pour faire quand même assez rapide, la Tour du Valin, elle est basée au cœur de la Camargue. Et c'est une station qui fait à la fois de la recherche et de la conservation de la nature. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir les deux volets. Donc, essayer d'améliorer les connaissances et le suivi sur les milieux et concrètement de le mettre en application par la suite. Donc, la Tour du Valin, elle est au cœur de 2600 hectares au cœur de la Camargue. Donc c'est à peu près 80 personnes, donc une vingtaine de chercheurs. Et après, les autres personnes, c'est à la fois des gens qui s'occupent de la conservation et de la gestion du domaine dont je vous parlais de 2600 hectares.
Alors c'est une structure qui est quand même d'une certaine taille, puisque vous avez 75 salariés, dont 30 chercheurs.
Oui, non, c'est vrai qu'en termes de protection de la nature, c'est une grosse structure, notamment au niveau local. Et elle est importante aussi parce qu'elle ne travaille pas qu'au niveau local. C'est-à-dire qu'on a pour objectif de travailler sur toutes les zones humides au niveau méditerranéen. Donc on travaille beaucoup aussi bien au Maroc, en Tunisie, en Grèce, parce qu'on s'aperçoit que chez nous, on n'a pas été des très très bons élèves pour les zones humides. Dans les autres pays, c'est pareil, quoi. Donc, je ne sais pas si on peut donner des chiffres,
bien
parce
sûr.
Que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de dégradation. En France, on a, en 100 ans, dégradé 2,5 millions d'hectares de zones humides. En gros, c'est trois fois la Corse, quoi.
Oui,
donc, je
ne
sais pas si... Enfin, ça donne une idée, c'est quand même assez énorme.
Alors, ces zones humides, quelles ont été les causes principales de la dégradation ?
Bah, elles ont été multiples. Hein. C'est vrai que ça, on parle tout d'abord du développement de l'urbanisation. Donc, ce qui est logique, on ne peut pas freiner le développement local, mais bon, à une époque, on le faisait au détriment de la nature. Donc, c'est vrai que l'urbanisation, l'aménagement du littoral, notamment, a pas mal contribué à la perte des zones humides. L'agriculture aussi, c'est vrai que pour gagner des terrains agricoles, on a souvent asséché ces milieux-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font qu'on a eu des problèmes au niveau de la perte des zones humides.
Alors, Catherine ?
Oui, il y a aussi eu un effet, en fait, les zones humides ont été vues longtemps comme négatives et insalubres, notamment
le problème
de moustiques.
Et puis aussi la LOM, c'est dans un des documents que vous m'avez envoyé, c'est intéressant ça. Donc la perception change en fait.
Voilà, c'est ça. Donc pendant longtemps, on a plutôt essayé de faire disparaître ces zones humides. On n'avait pas conscience de leur rôle et donc on les a comblées. Voilà, comme disait Marc, on a construit dessus, on a fait de la culture. Et maintenant, petit à petit, et c'est notre rôle aussi ce soir et au cours de nos manifestations, de sensibiliser le grand public et les élus aux enjeux et aux bénéfices des zones humides.
D'ailleurs, c'est la mission qu'on s'est fixée par rapport à cette convention, c'est ça, c'est arrêter la perte et la dégradation des zones humides en France, justement, enfin en Méditerranée. Parce que, est-ce que vous disiez, vous travaillez pas seulement sur la Camargue, évidemment, mais sur la Méditerranée en France et sur tout le bassin, parce que, évidemment, bon, les migrations ne s'arrêtent pas au bord de l'Alpe, on pourra bien nous l'expliquer tout à l'heure, mais ne s'arrêtent pas aux frontières, quoi. Donc c'est important d'avoir de la concertation.
C'est vrai que tout d'abord, on a parlé des zones humides vis-à-vis des oiseaux. Donc, il n'y a pas de limite. Hein, les oiseaux se déplacent partout. Donc, la première prise de conscience, elle a été internationale parce que les oiseaux se déplacent et ils trouvaient des problèmes, que ce soit en Afrique, en France. Ils avaient de plus en plus de mal à trouver des sites pour se reproduire, pour nidifier. Et après, au fur et à mesure, on s'est aperçu que c'est un peu sorti du giron écologiste. Et de plus en plus, on s'aperçoit qu'il faut prendre en compte les zones humides, comme on l'a dit, dans l'aménagement du territoire, pour gérer les crues, les inondations. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que maintenant, on ouvre le débat à des personnes qui sont un peu moins spécialistes. Et la Journée mondiale des zones humides, elle sert beaucoup à ça aussi, quoi.
Donc il y a un point qui ressort souvent dans les documents que vous m'avez envoyés, c'est l'idée de concertation. Donc vous le faites au niveau méditerranéen, mais aussi au niveau local. Par exemple, parler de l'importance de la gestion concertée. Alors ça, c'est évidemment un point majeur qui revient souvent dans les thématiques environnementales. Comment préserver l'environnement en intégrant l'économie, les activités de loisirs? Puis Dieu sait que des acteurs, par exemple sur une zone comme la Camargue, il y en a beaucoup. Bon, pour ne pas les citer, les chasseurs, les excursionnistes, les locaux aussi, puis ceux qui y travaillent aussi, parce qu'il y a des activités sur la Camargue. Alors vous pouvez nous parler un petit peu de l'exemple du village Le Sambuc?
Donc, ce qui est intéressant sur donc le village de Saint-Muc, c'est que la Tour du Valat a justement acheté 120 hectares d'une ancienne pisciculture et elle a essayé de développer tout son savoir-faire, notamment en termes de gestion, mais en y incluant la population locale. Donc le but, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, hein, on essaye de faire participer tous les acteurs, faire de la concertation. Donc les gens nous ont expliqué ce qu'ils voulaient faire sur ce terrain-là. Donc on a pris en compte toutes ces doléances et en même temps, on y a apporté notre savoir-faire pour préserver quand même les milieux. Donc maintenant, on a de la chasse, on a de l'exploitation du roseau, on a des gens qui viennent se promener, on a du pâturage extensif. Mais tout ça se fait bien encadré par un suivi scientifique. Et donc, tout le monde arrive à trouver sa place. Donc, c'est vrai que c'est à une petite échelle de 120 hectares, mais c'est ce qu'il faut arriver à faire sur l'ensemble des territoires pour que les zones humides se portent bien. Donc ça, c'est vrai que c'est un autre challenge. Hein. 120 hectares et un petit village de 300, 400, 500 personnes.
C'est un
personnes.
Laboratoire pour l'instant, mais j'espère que ça va s'étendre, quoi.
Bah, c'est en train de s'étendre, mais c'est vrai que c'est, on va dire, plus facile de faire ça à l'échelle de ce village-là qu'à une échelle plus grande. Mais maintenant, énormément de structures. Valcibaujaille pourra nous en parler. C'est ce qu'ils font au niveau des l'étang du Beaulmont, de l'étang de Berre. Tout le monde commence à travailler à ces échelles-là avec tous les acteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu une mouvance.
D'accord. Alors vous, pour la Journée mondiale, qu'est-ce que vous faites à la Tour du Valat ?
Donc, outre le fait d'essayer de coordonner l'événement en PACA et en Languedoc-Roussillon, puisque c'est un peu notre rôle au niveau des pôles relais zones humides, de promouvoir ça au niveau national. Donc, la Tour du Valat sera ouverte le dimanche 5 février pour justement arriver à montrer son territoire, son savoir-faire. Donc, vous pourrez à la fois découvrir les activités traditionnelles, les activités de recherche et découvrir la richesse de la faune et de la flore sur cette réserve naturelle. Et puis la visite aussi avec le guide donc, de ces fameux marais du Verdier où on fait de la concertation et du multi-usage sur le site.
Donc alors une journée accompagnée de spécialistes, donc ça vaut sans doute le coup d'œil. On vous laissera donner donc toutes les coordonnées nécessaires aux gens qui seraient intéressés en fin d'émission. Merci pour ces informations, Marc. Alors on va passer à Cibojaï maintenant. Catherine Aubert. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre structure?
Oui, donc le Cibojaï, comme je l'ai dit, c'est le syndicat intercommunal du Bolmont et du Jaï. Donc on travaille pour deux mairies, Châteauneuf, Les Martigues et Marignane, et on gère donc des espaces naturels, dont une grande partie appartiennent au conservatoire du littoral. On gère l'étang de Bolmont, pour ceux qui connaissent, donc c'est un petit étang de 600 hectares, situé au sud de l'étang de Berre. Les marais du Bolmont, on a également une pinède au niveau de cette zone, et puis on gère également la plage du Jaï, qui est en fait un cordon dunaire qui sépare naturellement l'étang de Berre de l'étang de Bolmont, ainsi que les marais du Jaï.
Oui, donc ça fait quand même pas mal de surface. Donc vous dites que vous gérez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous contrôlez, vous faites des études, qu'est-ce que vous faites en termes de gestion?
Alors, c'est ça, en fait. Moi, plus spécifiquement, je suis chargée des suivis scientifiques. Donc je suis l'évolution du milieu, différents paramètres. J'ai des suivis de la qualité de l'eau, de la faune, évolution de la flore, la dégradation des habitats. Et puis, on a un milieu qui est notamment l'étang de Bolmont, qui est un petit peu en mauvais état. Donc, on propose des mesures de gestion, de réhabilitation. On réfléchit à ça avec les élus locaux. Et notre rôle, c'est aussi de mettre en valeur ces mesures et de tester leur efficacité grâce au suivi du milieu. Donc, de voir si les mesures qu'on a proposées, qu'on a mises en place, étaient efficaces ou pas. D'essayer de les réorienter si besoin est. Et puis, on a également un rôle de sensibilisation du grand public et puis d'accueil du public. Donc le site est ouvert au public. On a de nombreuses personnes qui viennent sur le site régulièrement, se promener, faire du vélo, faire leur jogging, regarder les oiseaux. On a aussi des chasseurs.
Oui, aussi beaucoup de populations et d'usagers différents. Voilà. Vous parlez dans les documents que vous m'avez envoyés de valeur patrimoniale des zones humides. Oui. Donc vous travaillez aussi en termes de communication sur cette notion?
Oui, par exemple, c'est sûr que la Journée mondiale des zones humides, là, pour nous, ce sera l'occasion de communiquer là-dessus, sur le rôle, en général, des zones humides et plus particulièrement des zones humides du Bolmont, puisqu'on va toucher un public plus local, on parlera des zones humides qu'ils connaissent, enfin, qu'ils croient connaître, puisque finalement, on va sûrement
porter un éclairage supplémentaire.
C'est ça. Et puis, on a quelques animations ponctuelles au cours de l'année, mais ça, c'est encore un domaine dans lequel on va travailler plus amplement. Enfin, c'est encore un projet de développer des animations au grand public.
Donc, et alors, vous participez à la Journée mondiale.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez faire, alors? On parlait tout à l'heure de sortie en bateau.
C'est ça. Nous, le Cibojaï organise une excursion en bateau. Sur le canal du Rove, pour longer l'étang de Bolmont, les marais du Bolmont. Et ensuite, on ira dans le sud de l'étang de Berre, le long de la plage du Jaï et le long des côtes sauvages du sud-ouest de l'étang de Berre.
Donc, dans les documents... Alors, vous me disiez que vous étiez déjà plein, par contre, pour cette...
C'est ça, le bateau a 100
Quel
places.
Quel dommage pour les retardataires.
Et oui, donc, maintenant, c'est inscription sur liste d'attente.
D'accord. Il y aura sans doute d'autres initiatives de ce type dans l'année.
C'est ça, ça a beaucoup de succès. C'est déjà la deuxième fois qu'on l'organise. Donc, on en organisera sûrement encore une autre. Donc, les personnes pourront s'inscrire sur liste d'attente et ils seront prioritaires pour une inscription, pour une prochaine sortie.
Alors, vous me parliez aussi de moyens de réhabiliter ces zones-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, les différentes mesures que vous voudriez qu'on mette en place ou que l'on commence à mettre en place pour justement arriver à une réhabilitation de ces zones ?
Sur les temps de Bonnemont,
par exemple. Oui.
Alors, les temps de Bonnemont, bon, il a, pour ceux qui connaissent, il a des problèmes divers. Il y a pas dans les mesures donc qui sont prises actuellement, qui sont en train d'être mises en route, il y a la mise aux normes des stations d'épuration. Mm-hmm. Parce que faut savoir que les zones humides, bah, c'est souvent là où sont rejetés tous les effluents des stations d'épuration, donc toutes les eaux usées, hein, des usagers. Donc longtemps, ces stations n'étaient pas aux normes, donc on a enrichi ces milieux et on a créé un déséquilibre total du milieu. Mmh. Donc ça, c'est déjà une grosse mesure.
Grosse avancée,
ouais, voilà. Et puis ensuite, pour l'étang de Bonnemont, on a des projets de plus grande ampleur, notamment avec l'ouverture du tunnel du Rov, par exemple, qui est un sujet
houleux
et qui dure depuis déjà maintenant des années. Mais bon, on touche au but, je pense.
Bon, mais très bien. Mais je vous remercie en tout cas pour ces informations. Puis on va avoir la possibilité de vous entendre à nouveau dans le courant de l'émission. On va demander à la LPO maintenant de se présenter. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux a déjà envie d'expliquer ce que c'est que la LPO. Donc, Cynthia.
Bonsoir. Donc, pour faire un peu rapide, la LPO est un mouvement qui a été créé en 1932. Par des ornithologues qui ont voulu sauver le macaro-moine de Bretagne. Et à l'heure actuelle, notre président est Alain Bougrain-Dubourg. Mmh. Donc ça, c'est pour remettre un petit peu dans le temps. L'IPO de Marseille est ouverte depuis 4 ans. Donc on s'occupe surtout de la protection de l'habitat de l'oiseau. Mmh. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc sur Marseille, on a pensé que rentrer dans la journée en Ramsar, ça serait une bonne chose. Comme ça, ça permet aux gens aussi bien de leur montrer un peu la vie des oiseaux que la journée Ramsar, ça fait un parallèle. Parce que c'est vrai que, comme le disait Marc, souvent l'oiseau, ça, c'est un bon thermomètre.
Oui, de l'état de santé d'un écosystème.
En plus, ce que je voulais, j'y pense, ce que je voulais dire sur la tour de Valla, c'est que grâce à eux, ils nous envoient quand même énormément de personnes qui peuvent nous parler d'oiseaux de mer ou d'oiseaux, enfin, d'un petit peu tout. Souvent, ils viennent à la LPO lors de nos conférences.
Donc, en fait, la LPO, juste pour le rappeler, donc c'est la Ligue de protection des oiseaux. On entend quand même souvent parler de vous. Donc, vous faites un travail formidable. Vous êtes déjà venu, enfin, pas vous, mais différents membres de la LPO pour parler justement d'espèces endémiques qui sont dans la région. Alors, des espèces endémiques sur une zone comme la Camargue, il y en a beaucoup.
Je ne suis pas particulièrement au courant de ça.
Du nombre d'espèces. Alors, est-ce qu'Erika en sait un peu plus?
Bon, la Ligue pour la protection des oiseaux est une association nationale et, comme le disait Cynthia, on s'occupe de protéger les oiseaux et leurs habitats. Certains groupes locaux ont beaucoup d'ornithologues, d'autres ont beaucoup de bénévoles qui veulent faire quelque chose pour l'environnement sans être forcément des ornithologues. Et c'est notre cas du groupe à Marseille. Voilà, on n'est pas très ornithologue, peut-être aussi parce que voilà, on est des habitants d'une grande ville.
Mais je crois que c'est bien qu'il y ait un peu de tout, justement, qu'il y ait des citadins qui se mobilisent.
Voilà. Moins naturaliste, mais quand même très, très soucieux de l'état de notre environnement et motivés pour faire des choses dans ce sens-là.
Bien sûr, d'ailleurs, on vous voit souvent sur le terrain. Alors Cynthia ?
Bah, disons que tout ce qu'on touche, il y a toujours une histoire d'oiseaux. Parce que notre gros bébé, c'est le nettoyage de l'Yvonne. Et effectivement, au début, les gens ne voient pas exactement le rapport avec les oiseaux, mais on peut vous parler d'un couple de hérons cendrés que tout le monde connaît. Il y a des oiseaux que tout le monde connaît, donc il y a toujours un rapport quelque part.
Oui, non, bien sûr.
Voilà.
Claire. Donc, vous participez, comme vous le disiez, donc à cette journée des zones humides, justement parce que les zones humides contiennent beaucoup d'espèces d'oiseaux et que ça vous semble essentiel de participer à la protection de ces zones pour protéger ces oiseaux. Donc, vous allez être au centre d'exposition du parc du 26e centenaire, c'est ça, hein,
Erika ? Oui, c'est ça. Samedi 4 février, nous sommes, comme vous disiez, au centre d'exposition Parc du 26e centenaire, dans le 8e arrondissement de Marseille. Et notre exposition sera ouverte de 10h à 17h.
D'accord. Alors, cette année, vous avez Jacques Blondel qui vient faire une conférence. En fin de journée, c'est ça?
Il vient, la conférence est à 15h.
15h.
Pas du tout en fin de journée.
Non, pas du tout en fin de journée, je dis des bêtises. Alors venez à 15h, ne soyez pas en
retard. Venez à 15h.
Donc, alors cette conférence, elle va porter sur quoi?
Jacques Blondel est un spécialiste en beaucoup de choses, en biogéographie, en migration d'oiseaux. C'est un spécialiste de la Camargue aussi. Il a contribué ou lui-même écrit de nombreux ouvrages et d'articles sur la Camargue. Et c'est un écologiste engagé. Il s'approche de la retraite et il s'est beaucoup maintenant investi dans des conférences citoyennes, éco-citoyennes.
Alors, le thème de la conférence, ça va être les migrations intercontinentales d'oiseaux, leur avenir face au changement climatique.
Exactement.
Je cite. Donc, ça a l'air d'être très intéressant. On vraiment encourage les gens à y participer. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous allez faire sur Marseille, c'est que vous couplez en fait cet événement avec l'année des oiseaux d'Afrique. Ce que j'ai lu dans le document que vous m'avez envoyé. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un jeu avec des oiseaux qui vont être exposés, c'est ça? Ou les enfants vont pouvoir, sous forme de Monopoly?
Oui. La journée mondiale des zones humides a lieu chaque année. Mmh. Par contre, la LPO choisit chaque année
un thème.
L'année dernière, c'était les oiseaux d'eau. Donc, ça a coïncidé parfaitement avec la journée Ramsar. Mmh. Et cette année, ce sont les oiseaux d'Afrique. Et on a trouvé justement le thème des migrations pour concilier les deux, les oiseaux d'Afrique et les zones humides, qui sont très très souvent soit des haltes migratoires, soit des lieux d'hivernage.
Alors vous faites vraiment de la sensibilisation à l'environnement, parce que là il y a de la place pour tout le monde, hein, pour les enfants, pour les adultes. Donc on peut venir en famille pour participer à cette journée avec vous.
Il faut venir en famille. Voilà, donc ce jeu Migropoli, enfin on l'a baptisé Migropoli, où nous représenterons 4 espèces d'oiseaux qui sont intéressantes parce qu'elles ont, disons, des stratégies différentes pour migrer. Et le joueur prendra son oiseau et devra parcourir le chemin entre le site de nidification en Europe et le site d'hivernage en Afrique. Mmh. Surmonter toutes les embûches sur son chemin, qui peuvent être des aléas climatiques, comme ça peut être un impact humain, construction d'un lotissement sur une zone, sur une étape. Ça peut être de la chasse, du braconnage, ça peut être plein de choses. Mmh. Et donc, une fois qu'il a atteint sa zone d'hivernage, il faut bien sûr qu'il refasse le trajet inverse pour retourner nicher, se reproduire l'année suivante.
Donc,
voilà. Ceci, bien sûr, sera récompensé par des petits lots.
Bon, super. Bon, bah, donc vraiment, donc c'est du matin à l'après-midi, en fait. Hein.
Oui, le jeu,
ça
c'est
commence
toute
le matin.
La journée.
Donc, très bien. Alors, on rappelle, c'est le lieu, c'est
Parc du 26e
centenaire. J'ai cherché le mot.
8e arrondissement.
Dans le 8e arrondissement. Donc, c'est au Parc Chanot, en fait. Hein.
C'est l'ancienne gare du Prado.
Ok, faites bien. Je suis allée au mauvais endroit, moi. Oui.
C'est pas loin de Castellane, si vous voulez.
D'accord. Ok, très bien. Ah oui, effectivement, oui, Parc du 26e centenaire. Quelle honte, quelle mauvaise Marseillaise je fais. Alors, je vous remercie à tous, en tout cas, déjà pour ces informations sur vos structures. On va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on a parlé depuis le début de l'émission des zones humides. J'ai donné brièvement une liste des différentes zones humides qu'on pouvait trouver. Est-ce que l'un de vous pourrait donner une définition un peu plus complète des zones humides? Alors, Marc ou Catherine, comme vous voulez.
Oui, j'ai une définition. Une définition qui est donnée dans la loi sur l'eau. Mmh. Donc en fait, les zones humides, ce sont des terrains qui sont inondés d'eau douce, saumâtre ou salée, de façon permanente ou temporaire. Et elles sont aussi caractérisées par des animaux et des plantes adaptées à ces milieux, adaptées à l'eau. Mmh.
Donc, dans la région, on a dit tout à l'heure, les deux essentiels, c'était la Camargue, c'est ça? Puis les deux essentiels, il y avait la Petite Camargue et la Camargue.
En fait, la Camargue est une grande zone humide, mais qui rassemble plusieurs types de zones humides.
Des zones humides différentes.
Ouais. Donc,
Alors, dans les documents que vous m'avez envoyés, j'étais impressionnée par certains chiffres. Donc, je vais vous les donner. Vous allez pouvoir les commenter. Justement, que bon, on a dit tout à l'heure que donc, c'était des milieux qui avaient été longtemps considérés comme hostiles à l'homme. Et pourtant, quel dommage, puisque les zones humides méditerranéennes sont le lieu de passage de 2 milliards d'oiseaux migrateurs par an. Donc, ça fait 150 espèces. Voilà le chiffre qu'on cherchait tout à l'heure. Donc, bon, ce sont des sites donc, qui sont utilisés comme étape pour les migrations l'Eurasie et l'Afrique. Donc ça paraît complètement... Enfin, c'est énorme comme zone. Et la Camargue, c'est surtout un passage pour certaines espèces d'oiseaux. J'ai des questions pièges. Ils m'ont regardé sous avec des yeux, genre, mais qu'est-ce qu'elle nous demande ?
Il y a plusieurs voies migratoires pour les oiseaux qui viennent d'Eurasie, selon leur habitat, enfin, selon là où ils nichent, ils vont choisir tel ou tel couloir de migration pour arriver en Afrique. Certains, ça dépend aussi de leur mode de vie. Certains pourront traverser la Méditerranée en survolant l'eau directement. D'autres devront survoler le continent et éviter d'être trop au-dessus de l'eau. Parce qu'il y a des conditions atmosphériques et climatiques qui ne leur conviendraient pas. Ou alors parce qu'ils ne peuvent pas accumuler énormément de réserves pour faire un long trajet sans halte. Donc, il y a un couloir migratoire qui passe par le détroit de Gibraltar, un couloir migratoire qui traverse la Méditerranée en ligne droite, et un troisième qui... enfin, il y en a plus que trois. Il y en a un qui longerait l'Italie pour ne faire qu'un tout petit bond au-dessus de l'eau pour rejoindre l'Afrique. Et puis, il y a d'autres couloirs qui... Pardon, on les a pas fait intervenir dans notre micropolis. Il y a d'autres couloirs migratoires qui passent plus qui sont plus occidentaux, orientaux, excusez-moi. Ouais.
Quelque part, bon, quand on voit cette masse de population d'oiseaux qui a besoin de ces zones justement pour se reproduire, bon, ça paraît simple, mais supprimer les zones humides, c'est condamner ces espèces à de toute façon péricliter et disparaître même. On a eu le cas d'espèces comme ça, sur lesquelles on a, du fait de la diminution de ces zones humides, on a dû travailler à leur réinsertion en milieu naturel, pour essayer de les réintégrer, tout ça, parce qu'elles étaient en voie de disparition. Marc ?
Enfin, juste pour parler notamment de, on peut parler du buteur étoilé, donc qui est une espèce qui est inféodée aux roselières. Et c'est vrai que comme son habitat roselière donc a beaucoup diminué dans ces dernières années, on a eu donc un début de disparition de cette espèce. Et il y a eu tout un programme, notamment piloté par la LPO nationale, la Tour du Valat et d'autres structures en Camargue, pour essayer de reconstituer les populations.
Alors Catherine, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, moi je voulais parler d'un autre exemple, c'est pas un oiseau, mais pour montrer l'importance aussi des zones humides, c'est le brochet par exemple, parce qu'en fait les brochets frais donc, se reproduisent dans des zones d'expansion de crues, c'est-à-dire lorsque la rivière déborde de façon naturelle l'hiver, normalement elle s'étend donc, sur les zones humides de part et d'autre de son lit, et c'est là que les brochets vont se reproduire dans ces zones-là, et donc la disparition des zones humides a porté grandement atteinte à la reproduction du brochet.
Bien sûr. Alors, évidemment, porter atteinte aux zones humides, c'est porter atteinte à la faune et à la flore. C'est prendre le risque de voir disparaître des espèces endémiques, parce qu'il y en a en France, mais il y en a aussi dans tout le reste de la Méditerranée et dans tout le reste des zones humides mondiales. Mais ce n'est pas le seul point. On l'a présenté un peu en introduction. Méconnaître et mal gérer les zones humides, ça peut avoir des impacts graves sur notre environnement et puis sur notre vie à tous. Vous pouvez en parler un petit peu ?
Oui, puis pour notre avenir, en fait, il y a des rôles qui sont méconnus des zones humides, mais les zones humides, ce sont des grands réservoirs d'eau douce. Donc la plupart des zones humides sont quand même des zones d'eau douce, les rivières, les lacs. Bon, nous, en Camargue et sur l'étang de Bolmont, on est plutôt en eau saumâtre. Mais donc ce sont des grands réservoirs d'eau douce. Donc actuellement, on parle d'une crise mondiale de l'eau, donc c'est quand même pas négligeable. Ce sont des zones à protéger. Ces zones, elles alimentent les nappes phréatiques en eau. Ensuite, elles épurent l'eau, donc grâce par exemple aux roselières dont parlait Marc. L'eau est épurée donc, des pesticides, des nitrates, et donc elles améliorent la qualité de l'eau. Donc ce sont des rôles importants. Et puis également, donc, zone d'expansion de crues. Construire dans des zones humides, bah, ça fait des zones inondables.
Oui, bien sûr, on a eu le cas dans la région où on a construit de toute façon en zone humide et on voit les résultats que ça a donné. Quoi.
Et oui, c'est toujours délicat. Hein.
On ne maîtrise pas toujours la nature. Alors Marc ?
Oui, justement, pour rebondir un peu sur ces aspects crus, on s'aperçoit souvent que si on prend le Rhône, par exemple, le Rhône a été complètement endigué pour permettre de construire ou de faire énormément d'activités sur les bords du Rhône. Alors qu'avant, ces bordures du Rhône étaient avec des forêts, des répulsifs qu'on appelle, et aussi pleines de prairies autour qui permettaient à l'eau de s'écouler, de s'épandre. Donc il n'y avait pas vraiment à l'époque de problème d'inondation. Les inondations ont toujours existé. Maintenant, on va dire que c'est nous-mêmes qui nous sommes un petit peu créés ces problèmes-là. Donc faire marche arrière, c'est très difficile. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit maintenant qu'on a fait énormément d'erreurs. Maintenant, bon, on essaye de restaurer les zones humides. Mais par exemple, pour les zones humides en amont dans le Rhône, ça ne va pas être évident de retrouver toutes ces zones d'expansion de crues.
Non, bien sûr. Erika, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, ce qu'il y a aussi justement au niveau de la Camargue, lorsqu'il y avait cette alternance entre crues et débit normal du fleuve, les terres inondables étaient tantôt plus saumâtre, hein, enfin était recouverte ou trempée dans de l'eau plus saumâtre ou plus douce. Et des espèces animales et végétales étaient particulièrement adaptées à ça. Maintenant qu'il n'y a plus ces crues-là, les espèces qui ont besoin de cette alternance vont disparaître ou ont disparu.
Et elles sont disparues ou elles se sont déplacées éventuellement vers d'autres zones sur lesquelles elles pouvaient encore... Parce que je crois que c'est une des... Dans un document que l'un de vous m'a envoyé, c'est justement un des problèmes, par exemple, de la Camargue, c'est que c'est un milieu où justement les espèces ne peuvent pas forcément se déplacer facilement et aller ailleurs pour essayer de se... Enfin, aller ailleurs, trouver ce qu'elles ont justement sur place.
C'est vrai que c'est devenu un milieu très artificialisé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Camargue, de son image sauvage. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est quand même très... Très maîtrisé par l'homme. Donc les espèces maintenant ils sont adaptés. C'est vrai que bon, si on a beaucoup parlé des oiseaux jusqu'à présent, eux arrivent globalement quand même à se déplacer, mais il y a d'autres espèces très très importantes pour les zones humides, notamment les poissons. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat pour se déplacer dans les différents milieux.
Et puis les poissons, puis les batraciens aussi.
Oui, exactement, et tout ce qui est amphibien. Certaines espèces sont moins douées de capacité de se déplacer que d'autres, et c'est elles qui pâtissent en premier de ce problème-là.
Alors très bien, alors, je vous remercie pour ces informations. On arrive déjà à la fin de la première partie. Alors on va écouter un morceau du groupe Bumcello. Voilà, on les écoute, on revient tout de suite après.
Shambles, don't know what to do. People always moving. I stand next to you. Take me on your love spree. Boys and girls, let's dance. Feel better. I got a lot of chance. Skies above me, plane crash on the side, body's filled with heat now, I'm just a fucking shy, cruising in Calcutta, your sense following me. Eternally.
to me. I'm the love referee. I want you to be my queen. Got a scheme on you. Got something planned for you. Take it to Bombay City. Life's good, so symphony. I'm the love referee. I want you to be my queen. Take it to Bombay City. Life's good, so symphony.
Bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de l'émission Regard sur l'environnement du réseau Écoforum. Ce soir, nous parlons de la Journée mondiale des zones humides qui a lieu le 2 février tous les ans et depuis plusieurs dizaines d'années. Donc j'ai pour parler de ça plusieurs invités, donc deux représentantes actives de la LPO, Marc Barral de la Tour du Valat, donc qui travaille sur les pôles des lagunes méditerranéennes, donc Cynthia Erika, donc j'ai pas cité leur prénom, de la LPO, et Catherine Aubert du syndicat intercommunal Cibojaï. Donc on a traité en première partie, enfin essayé de présenter globalement en première partie d'émission quelles étaient vos activités et en gros ce que c'était que les zones humides. Alors on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails pour les petites 20 minutes qu'il nous reste. Donc on parlait justement pendant la coupure du rôle des zones humides, ce qu'on a parlé un petit peu de ce qu'on y trouvait en première partie d'émission. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu justement du rôle en dehors du rôle environnemental aussi, quels sont les rôles qu'elles peuvent tenir?
Donc
Catherine.
Oui, bah, donc il y a aussi des rôles économiques. Notamment donc, dans le maintien de certaines activités traditionnelles. Donc, nous, par exemple, au Bolmont, on a une manade. Donc, on a un manadier avec des taureaux. Donc, ça nous permet, sur le site, c'est un aspect paysager. Ça nous permet d'entretenir les prairies, de favoriser certaines espèces de plantes protégées. Et le manadier trouve son compte également, puisqu'il fait paître ses taureaux sur le site. Il y a également des exemples donc, de production, enfin, d'exploitation des roselières. Il y a les cas des salés marrants, des marais salants, excusez-moi.
Ce qui n'a rien à voir avec les salés marrants, non. Mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà, l'exploitation du sel. Et puis des activités traditionnelles donc, qui sont chères à certains, la pêche et la chasse.
Alors c'est intéressant justement de montrer qu'il y a plein de rôles qui peuvent être tenus dans le cadre des zones humides et qu'elles ont plein de rôles, ces zones humides. C'est le thème de cette année, puisque c'est l'intitulé de cette année, c'est, je cite, « Les zones humides en tant que support d'un développement local durable ». C'est bien ça. Donc arriver à intégrer toutes ces fonctions de façon harmonieuse, si tant est que ce soit possible, on espère que ça l'est, c'est parvenir à un développement local durable.
Et oui, c'est ça l'objectif. C'est ça qui est difficile, mais intéressant dans notre travail. Donc, c'est concilier tous les usages et ils sont nombreux sur les zones humides.
Bien sûr. Alors, Marc ?
Bon, c'est vrai qu'on met un peu le développement durable à toutes les sauces, mais
oui,
bon.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais...
Donc, développement durable, c'est trois piliers, environnement, économie et social. Donc, clairement, depuis, on en a un peu discuté ce soir, on est vraiment dans ces trois volets pour les zones humides. Puisque, on l'a dit, ça rend d'énormes services au niveau économique, puisque ça permet de lutter contre les crues, d'énormes services aussi au niveau de la biodiversité, et puis donc d'énormes services économiques, là on vient d'en parler avec Catherine, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus la conchiliculture, donc on en a moins en PACA, on en a beaucoup en Languedoc-Roussillon.
Il faut expliquer un peu ce que c'est pour les néophytes.
La conchiliculture, donc, c'est l'élevage des moutres et des huîtres, donc ça on trouve ça énormément à Thaux, la lagune de Thaux, et vers 7, et puis notamment aussi à Salles-le-Cat. Donc ça, c'est des activités qui datent depuis de très très nombreuses années et qui font vivre quand même pas mal de personnes. Donc...
Sur la zone sur laquelle vous travaillez, donc particulièrement où vous êtes implanté, la Camargue, c'est l'activité majeure de cette zone humide au niveau économique?
En fait,
la conchiliculture ?
Non, justement, en Camargue, il n'y a pas du tout de conchiliculture. Parce que, par contre, il reste de la pêche professionnelle. Il reste énormément de sel. La saliculture, c'est quand même quelque chose de très important avec les salines humides, que ce soit à Aigues Mortes ou à Salines-Giraud. Et puis après, il y a toutes les autres activités, comme les manadiers. C'est vrai que l'élevage de taureaux, c'est quand même emblématique. Et il y en a énormément encore en Camargue. Et la récolte du roseau. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une multitude d'activités. Qu'elles soient souvent traditionnelles d'ailleurs et qui permettent de faire vivre beaucoup, beaucoup de personnes.
Alors, justement, pendant la pause, Catherine, vous me disiez, oui, il faut absolument insister donc, sur les rôles, donc on vient de les citer, économiques, tout ça. Bon, les mauvaises langues vous diront, attendez, c'est gentil, les zones humides, le marécage, on est infesté par les moustiques, surtout que, bon, l'exemple de l'année dernière, je crois, a été majeur, où il y a eu carrément une infection, les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. Bon, évidemment, chacun sait, le moustique a un rôle important dans la chaîne alimentaire. Bon, là, c'est, l'infection de l'année dernière, c'était peut-être, enfin, la surpopulation l'année dernière, c'était peut-être un autre problème. Est-ce que vous pouvez, nous, vous, en tant que spécialiste sur les temps de volement, nous donner voilà, une liste d'arguments pour préserver cette zone-là, pour aller la visiter, et puis être des endroits vraiment particuliers où il faudrait y aller pour prendre toute pleine conscience de l'intérêt de l'étang de Bolmont, par exemple?
Oui, nous, sur l'étang de Bolmont et les marais du Bolmont notamment, qui sont donc dans lesquels il y a un sentier avec des observatoires, c'est vrai que c'est intéressant d'aller sur ce site. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de différents problèmes qu'on a, mais on a aussi une vraie richesse patrimoniale et c'est pour ça qu'il y a un organisme gestionnaire sur le site. Donc, on a des habitats prioritaires au niveau Natura 2000, donc au niveau européen. On a, vous avez parlé tout à l'heure des oiseaux, on a 230 espèces d'oiseaux, dont 50 nicheuses. Donc au printemps, on peut voir les oiseaux et leurs nichées de l'année qui sont sur les marais. Et on a également de nombreuses espèces de plantes, donc comme des orchidées par exemple. Donc c'est vrai que c'est un site, j'invite tout le monde à venir donc le visiter. C'est un site qui a sa richesse en partie, c'est parce que c'est un poumon vert en fait au milieu de zones industrielles, parce que Châteauneuf-les-Martigues, c'est la MED, c'est la raffinerie Total, c'est des zones industrielles, c'est très urbanisé. Et on a ce site en contrebas de l'autoroute qui est qui est vraiment étonnant parce qu'on se doute pas qu'il est là. Mmh. Et vraiment, je pense que c'est vrai que les gens, les riverains l'apprécient, le connaissent. Mais donc, j'invite tout le monde à venir le découvrir.
Et au niveau de la préservation sur les temps de Bolmont, vous, par rapport à ce qui a pu se passer il y a 10 ans et ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez qu'il y a vraiment une prise de conscience des politiques, par exemple, pour gérer ce patrimoine-là?
Alors, moi, je vais dire que oui, puisque le syndicat intercommunal donc, a été créé par les élus des deux mairies.
Donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes rompu à la cause des mairies.
Non, mais déjà, c'était une volonté des mairies, donc c'est quand même à saluer. Oui. C'est vrai qu'on a le conservatoire du littoral qui nous aide.